Imaginez une technologie qui est capable aujourd'hui de générer des films hyper réalistes, ou même de composer des symphonies primées, de diagnostiquer des pathologies complexes en quelques secondes.
Ouais, des trucs qu'on croyait impossibles il y a 10 ans.
Exactement. Et maintenant, imaginez que les fondations absolues de cette prouesse vertigineuse reposent en réalité sur une simple question philosophique. Une question griffonnée sur un bout de papier par un mathématicien en 1950.
C'est le grand paradoxe, oui.
C'est vraiment le contraste saisissant qui s'impose à nous aujourd'hui en plongeant dans l'édition 2026 de l'encyclopédie Comprendre l'IA. Je suis ravie d'explorer ça avec vous aujourd'hui parce que la thèse centrale de cet ouvrage, ce n'est pas juste de lister des mises à jour logicielles.
Non, pas du tout.
C'est plutôt un appel à réaliser que comprendre l'IA aujourd'hui, c'est saisir une transformation globale, culturelle, économique et fondamentalement anthropologique. On a souvent comparé ça à l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, mais en lisant nos sources, je me suis rendu compte que ce n'est pas qu'une question de duplication du savoir. C'est la nature même de la création qui est redéfinie.
C'est exactement le cœur du sujet. Bonjour à tous en passant. Eh oui, l'imprimerie a mécanisé la diffusion de la pensée, alors que l'intelligence artificielle mécanise une forme de la pensée elle-même.
Ce qui est vertigineux.
Totalement. Et le but de notre analyse d'aujourd'hui, c'est justement de prendre de la hauteur. Parce qu'il y a un tel bruit médiatique en ce moment.
Oh oui, une frénésie tous les jours.
Voilà. Avec les annonces technologiques quotidiennes, c'est facile de se focaliser sur l'écume des choses. L'encyclopédie qu'on examine fait le choix inverse. Elle s'arrête, elle structure et elle remonte à la source pour expliquer les mécanismes profonds.
D'accord, décortiquons cela. Parce que remonter à la source, ça nous réserve quelques surprises.
Ouais.
Dans l'imaginaire collectif, pour beaucoup de gens, l'IA est née hier, avec nos smartphones ou les grands modèles de langage. Mais le texte nous ramène plus de 70 ans en arrière.
C'est ça.
Tout part de cette fameuse question d'Alan Turing en 1950. Une machine peut-elle penser? Je trouve ça quand même paradoxal qu'une industrie à des milliards de dollars soit née d'une pure expérience de pensée.
Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est le propre des grandes révolutions scientifiques. Turing a posé le cadre théorique, mais il s'est heurté à un mur. Un mur d'une réalité très concrète, en fait.
La technologie de l'époque.
Exactement. Elle était incapable de suivre. D'ailleurs, l'encyclopédie s'atteint sur un moment charnière, le fameux séminaire de Dartmouth, en 1956.
Ah oui, le moment où le terme a été inventé.
Voilà. C'est là que l'expression intelligence artificielle a été officiellement frappée, on va dire. Mais ce qui ressort des documents d'archives, c'est le décalage monumental entre l'ambition de ces chercheurs et la réalité.
Oui, j'ai vu ça.
Ils étaient persuadés qu'en se réunissant pendant un été, juste à une bizaine, ils allaient modéliser l'ensemble du langage humain et de la vision.
Et résoudre le problème de l'intelligence en 2 mois.
En 2 mois, ouais.
Il faut avouer que c'est d'une arrogance intellectuelle assez spectaculaire. Penser qu'un phénomène évolutif qui a pris des millions d'années à la biologie pourrait être recréé, enfin, entre 2 tasses de café.
Complètement. Et la réalité s'est chargée de les rattraper assez vite. C'est ce que l'histoire retient sous le nom des hivers de l'IA.
Ah, les fameux hivers!
Oui, parce que l'approche initiale, ce qu'on appelle l'IA symbolique, consistait à essayer de dicter à la machine toutes les règles de la logique humaine.
Avec des lignes de code du style si telle chose se passe, alors fais cela.
Sauf que le monde ne marche pas comme ça.
Absolument pas.
Le monde réel est infiniment trop complexe, trop ambigu pour être réduit à un ensemble de règles rigides. Du coup, les financements se sont évaporés et l'enthousiasme est retombé.
Mais certains ont continué. L'encyclopédie met vraiment en lumière le rôle crucial de la persévérance. Une poignée de chercheurs ont décidé de prendre un chemin radicalement différent.
S'inspirer de la biologie.
C'est ça. Avec les réseaux de neurones artificiels. Et c'est là qu'on croise des noms qui sont devenus des légendes aujourd'hui. Des gens comme Geoffrey Hinton, Yann LeCun ou Yoshua Bengio.
Les pionniers.
Mais la question que je me pose en lisant ça, c'est pourquoi est-ce que cette approche a fini par fonctionner? Puisque l'idée des réseaux de neurones date elle aussi des années 80.
Oui.
Qu'est-ce qui a soudainement débloqué la situation pour qu'on passe de théories marginales à des IA capables de réussir des examens de médecine?
En fait, il y a eu deux catalyseurs indispensables, des trucs qui ont mis des décennies à arriver à maturité, la donnée et la puissance de calcul.
D'accord.
Pour qu'un réseau de neurones apprenne, il ne faut pas lui donner des règles, il faut lui donner des exemples, des millions, puis des milliards d'exemples.
Ce que l'Internet a fourni, au final.
Exactement. L'avènement d'Internet a fourni cette masse de données inouïe. Et ensuite, il a fallu des puces capables de traiter tout ça, les fameux processeurs graphiques.
Les GPU.
Voilà. Donc, des pionnières comme Feifei Li, qui a créé d'immenses bases de données visuelles.
ImageNet, c'est ça.
Oui, ImageNet. Où des chercheurs comme Demis Hassabis ont pu enfin voir leurs architectures théoriques s'exécuter à grande échelle. L'équation mathématique attendait simplement que l'infrastructure physique la rattrape.
Ce qui nous amène inévitablement sous le capot. Parce que la théorie c'est bien, mais il y a eu une rupture mécanique très spécifique récemment.
Ah, les Transformers.
L'encyclopédie insiste lourdement sur cette architecture des Transformers, et surtout sur le mécanisme d'attention. C'est un concept technique, mais j'ai l'impression que c'est là que la vraie bascule s'est opérée.
C'est le cœur du réacteur aujourd'hui.
Avant, les modèles lisaient un texte de manière séquentielle, mot par mot. En lisant ça, j'ai pensé à une métaphore. C'est comme si l'IA lisait un roman complexe, mais en regardant à travers une paille très fine.
Oh, c'est une très bonne image.
Elle voyait un mot, puis le suivant. Mais arrivée à la fin du paragraphe, elle avait totalement oublié de quoi parlait le début.
C'est ça. Le problème des anciens modèles, c'était cette amnésie structurelle. Et ce fameux mécanisme d'attention, qui a été introduit en 2017, a littéralement enlevé cette paille.
D'un seul coup.
Soudainement, oui. L'intelligence artificielle est devenue capable de regarder l'intégralité d'une page ou d'une image simultanément. Au lieu de traiter l'information en file indienne, le système mathématique pèse le poids de chaque mot par rapport à tous les autres. En temps réel.
Donc il comprend le contexte global.
Il cartographie instantanément les relations de contexte, oui. Il sait que le pronom à la fin d'un long texte fait référence au personnage principal présenté à la première ligne.
Parce qu'il a calculé le score d'attention.
Exactement, entre ces deux concepts précis.
D'accord, mais attendez. Soyons l'avocat du diable une seconde.
Allez-y.
Quand on lit que ces modèles génèrent de la poésie ou qu'ils composent de la musique, on utilise des mots très humains. On parle d'attention, de compréhension, de créativité.
C'est vrai, on anthropomorphise beaucoup.
Mais techniquement parlant, est-ce qu'on n'est pas simplement en train d'embellir un gigantesque moteur de saisie prédictive ? Au fond, la machine ne fait que deviner le mot statistiquement le plus probable, non ? En s'appuyant sur des milliards de données humaines, est-ce qu'elle comprend vraiment quelque chose ?
C'est tout le cœur des débats actuels. Et fondamentalement, vous avez raison sur la mécanique de base. C'est de la prédiction statistique.
Juste des maths, donc.
Oui, mais, et c'est ce que l'encyclopédie met vraiment en évidence, il y a un passage d'un changement quantitatif à un changement qualitatif. C'est ça qui définit les modèles fondationnels.
La quantité devient une qualité ?
En quelque sorte. Contrairement aux anciennes IA qui étaient entraînées pour une tâche étroite, genre jouer aux échecs ou détecter des spams, un modèle fondationnel est entraîné sur une proportion massive des connaissances humaines brutes.
Tout l'Internet, en gros.
Voilà. Et ce faisant, pour réussir à prédire le mot suivant avec une précision aussi terrifiante, le modèle est obligé de construire une représentation interne abstraite du monde.
C'est-à-dire ?
Pour finir une phrase complexe sur la physique quantique, il ne suffit pas de connaître les statistiques des mots de liaison. Il faut que le réseau ait modélisé une forme de logique interne de la physique.
Ah, je vois. Il doit simuler la règle sous-jacente pour deviner juste.
Exactement. Ce n'est pas de la compréhension humaine au sens conscient du terme, mais c'est un simulateur de réalité extraordinairement puissant, qu'on peut ensuite adapter pour tout faire, de la traduction juridique à la recherche de nouvelles molécules.
C'est vraiment vertigineux quand on y pense. La machine ne mémorise pas la réponse, elle modélise les règles du jeu.
C'est ça.
Et voici où c'est là devient vraiment intéressant. Parce qu'il y a un point de friction énorme soulevé par nos sources. On parle beaucoup de modèles de langage, d'images générées sur des écrans. On a tendance à conceptualiser l'IA comme quelque chose d'éthéré.
Le fameux cloud.
Oui, le cloud. Ça flotte dans les nuages. Sauf que l'encyclopédie nous ramène violemment sur Terre. Le cloud, ça n'existe pas.
Non, c'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre.
Et c'est une illusion marketing totale. L'intelligence artificielle s'infiltre massivement dans le monde physique. Et son infrastructure est lourdement matérielle.
Mais si on relie cela à la vue d'ensemble, c'est là que l'analyse sort du laboratoire pour entrer dans la géopolitique brute.
Ah oui, les semi-conducteurs.
Faire fonctionner ces modèles avec leurs mécanismes d'attention, ça demande une puissance de calcul gigantesque. Et ça repose sur des serveurs physiques. L'encyclopédie dresse une carte des goulets d'étranglement mondiaux, et c'est fascinant.
Tout repose sur quelques entreprises.
Une seule, presque. La majorité écrasante des puces de pointe est fondue par TSMC, sur une seule île, Taïwan.
C'est fou.
Et à l'aide de machines de lithographie extrême ultraviolet qui sont produites par une seule entreprise en Europe.
ASML, aux Pays-Bas. C'est un château de cartes technologiques, hein ?
Totalement.
Celui qui contrôle les chaînes d'approvisionnement détient littéralement les clés de l'intelligence de demain. On ne se bat plus seulement pour des puits de pétrole. La géographie du pouvoir se redessine autour des fermes de serveurs.
Et d'ailleurs, ces fermes de serveurs posent un autre défi colossal, l'empreinte environnementale.
L'eau et l'électricité.
Oui.
Les documents mettent en évidence la quantité ahurissante d'électricité nécessaire pour entraîner un seul modèle, mais aussi l'eau douce requise pour refroidir ces cathédrales de silicium.
J'ai lu qu'il y a des régions entières qui doivent arbitrer entre l'alimentation en eau de l'agriculture locale et le refroidissement des centres de données. C'est dystopique.
C'est une réalité très concrète. L'idée d'une IA dématérialisée est un mythe complet. Elle a un poids thermodynamique bien réel qui pèse sur des ressources limitées.
Ce qui crée une tension sociétale majeure, un vrai grand écart. D'un côté, on a l'IA qui s'échappe de nos smartphones pour intégrer des lunettes connectées, des véhicules autonomes ou pour révolutionner la médecine.
Les diagnostics précoces, oui, les promesses seront énormes. Les gains de productivité promis sont stupéfiants. Mais de l'autre, les défis structurels sont immenses. L'encyclopédie aborde de front la question de l'emploi, mais surtout la crise de l'information.
Ah, la désinformation.
La désinformation à l'ère de l'IA n'est plus artisanale, elle est devenue industrielle.
C'est une modification de la dynamique de la confiance publique, en fait. Ce que soulignent les chercheurs dans le texte, ce n'est pas seulement l'existence de fausses images ou de fausses voix. Ça, on connaissait déjà avec Photoshop ou les anciens trucages.
Oui, le concept n'est pas nouveau.
Non, mais ce qui est nouveau, c'est l'asymétrie de l'effort.
C'est-à-dire ?
Produire un mensonge hyper réaliste, générer un millier d'articles de désinformation parfaitement rédigés, ça coûte désormais une fraction de centime et ça prend 2 secondes.
Alors que vérifier cette information ?
Bah voilà, vérifier Debunker avec rigueur, ça demande toujours autant de temps et de moyens humains. C'est la structure même de l'espace public qui est déstabilisée. Les institutions sont contraintes de repenser la façon dont on authentifie la réalité.
Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Face à cette déstabilisation de la réalité, au bouleversement géopolitique, comment on réagit ? Et c'est là que l'encyclopédie prend une direction super inattendue.
Très inattendue, oui.
Au beau milieu des chapitres sur l'architecture réseau et la thermodynamique, on tombe sur, sur de la philosophie morale et de la théologie.
C'est surprenant.
L'ouvrage consacre une analyse approfondie à une encyclique papale. Elle s'appelle « Antiquia et Nova », l'ancien et le nouveau. Je dois dire que voir le Vatican s'inviter dans un manuel de technologie de 2026, j'étais assez surprise. Qu'est-ce qu'une institution millénaire vient faire dans les lignes de code ?
Oui, cela soulève une question importante et ça prouve à quel point le bouleversement est profond. Si l'IA n'était qu'un nouveau logiciel de traitement de texte, les philosophes ou les chefs spirituels s'en ficheraient complètement.
C'est clair.
Mais comme on l'a dit au début, c'est une crise anthropologique. La question centrale posée par cette encyclique, c'est celle de la dignité humaine face à la machine.
La place de l'humain ?
Voilà. Quand une machine devient capable de raisonner mieux qu'un juge pour évaluer une peine, ou mieux qu'un médecin pour choisir un traitement lourd, où se situe l'autonomie humaine ?
C'est la délégation de notre libre arbitre qui est en jeu.
Exactement.
Si l'algorithme est statistiquement plus performant pour prendre des décisions, la tentation naturelle, par pur souci d'efficacité économique, c'est de lui déléguer le pouvoir, de fermer les yeux et de laisser faire.
C'est le grand danger. Et c'est ce que l'encyclopédie appelle le concept d'humanisme technologique. L'enjeu n'est pas de refuser l'outil. Ce serait absurde de se priver des avancées médicales, par exemple.
Bien sûr.
Mais l'idée, c'est de s'assurer que l'architecture de décision maintient l'humain comme finalité. Les rédacteurs de l'encyclique et les comités d'éthique laïque mentionnés soulignent tous le même danger. Celui d'une société qui finirait par réduire l'être humain à un simple point de données, juste par fascination pour la statistique.
Parce que la machine n'a pas d'empathie.
L'humanisme technologique exige que l'IA reste sous la supervision morale d'une conscience. Aussi attentive soit-elle mathématiquement, elle ne ressent ni l'empathie, ni le poids des conséquences de ses erreurs.
En somme, la machine devient un miroir hyper exigeant pour nous. En externalisant la logique vers le silicium, on est forcé de redéfinir ce qui nous rend irremplaçables, l'empathie, l'éthique, l'intuition.
C'est notre seule porte de sortie par le haut.
Et c'est la raison d'être de cette édition 2026. Ce n'est pas un manuel de code, c'est un manifeste pour forger des citoyens éclairés. D'ailleurs, les auteurs ont mis en place un questionnaire participatif tout au long du livre numérique.
C'est une excellente initiative.
Ils sollicitent les lecteurs pour comprendre comment l'IA modifie leur métier, quelles sont leurs angoisses, leurs espoirs. C'est la reconnaissance que la direction de ces technologies ne doit pas rester qu'entre les mains de quelques ingénieurs.
C'est un appel à la reprise de contrôle intellectuel. Les défis liés aux centres de données, au marché du travail, à la vérification de l'information, aucun de ces problèmes ne va se résoudre tout seul.
Ni par la magie du marché, ni par une mise à jour.
Exactement. Il faut une architecture légale, sociale, citoyenne. Et pour ça, le public doit s'emparer du sujet, en comprenant les mécanismes de base. On ne régule bien que ce que l'on comprend.
Et comprendre, c'est ce qu'on a tenté de faire dans cette exploration d'aujourd'hui. Partir d'une simple équation des années 50, voir l'impact des transformeurs et de la tension, mesurer le poids physique et géopolitique de tout ça, et enfin aborder ce défi moral pour notre dignité.
C'est une véritable révolution tectonique, et on ne voit vraiment que les toutes premières secousses.
Ce qui m'amène à une dernière réflexion, un point qui résonne beaucoup après avoir analysé tout ça. Au début, on a rappelé que les pionniers se sont inspirés de la biologie et de la psychologie pour créer le mécanisme d'attention des machines.
Oui, pour imiter notre cerveau.
Ils ont appris aux machines à imiter notre façon de prêter attention. Mais aujourd'hui, on est submergé par les contenus générés par ces mêmes algorithmes. Nos flux, nos écrans sont dictés par eux. Alors on peut se demander, est-ce que ce n'est pas désormais la machine qui est en train de redéfinir biologiquement notre propre capacité d'attention humaine?
Ah, c'est une inversion vertigineuse du miroir, ça.
N'est-ce pas? La façon dont nous percevons la réalité est peut-être déjà en train de muter.
C'est une question qui mérite indéniablement d'être explorée par chacun de nous, vraiment.